Que nous avez-vous concocté de bon pour cette une au Moyen-Orient, ma chère Lise?
Eh bien, j'ai un invité exceptionnel ce matin, Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, je le rappelle si besoin est, vous êtes écrivain, dramaturge, membre de l'Académie Goncourt et vos livres sont traduits dans 48 langues. La dernière fois que vous êtes venu dans nos studios à Bruxelles, on a parlé de votre voyage en Israël et vous nous disiez combien cela avait été une expérience forte pour vous, tellement forte que vous en avez fait un livre, un carnet de voyage précis et personnel qui s'intitule « Le défi de Jérusalem » et qui vient de paraître chez Albin Michel. Alors dites-nous, Eric Emmanuel Schmitt, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ce voyage en Terre Sainte et dans cette ville de Jérusalem en particulier?
Je crois que dans ce voyage, j'ai appris à devenir totalement moi et à accepter totalement les autres. Parce que je trouve que cette terre est une terre unique dans l'histoire du monde. C'est une terre où les trois monothéismes se sont fondés. Le tout premier, d'où les autres dérivent, le judaïsme. Cette branche du judaïsme qu'est le christianisme, qui s'accomplit aussi sur cette terre et à Jérusalem, et puis aussi des éléments extrêmement forts de l'islam, puisque le sacrifice d'Abraham et le voyage de Mahomet. Et en fait, cette ville, Jérusalem, vous somme de vous définir, et en même temps vous appelle à partir de cette définition, à aller à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on pourrait être fratricide, mais Jérusalem vous dit « devenez fraternel plutôt que fratricide ». Les frères, pour moi, sont fratricides et se tuent les uns les autres quand ils oublient leur origine commune. Et Jérusalem, c'est véritablement la ville qui affirme l'origine commune de toute l'humanité et de toutes les histoires et les religions qui se sont formées dans l'humanité. Donc c'est une ville qui, même si elle est déchirée depuis des siècles, parce que les hommes sont ce qu'ils sont, même si elle est déchirée par des conflits, c'est une ville qui nous appelle tout au contraire à la fraternité et à la paix.
Oui, justement, vous dites, Eric Emmanuel Schmitt, Dieu lance un défi aux croyants des trois monothéismes. Il ne leur dit pas « entendez-moi », il leur crie « entendez-vous ». On voit que vous rêvez d'une Jérusalem d'entente entre les peuples. Et au lieu de ça, honnêtement, aujourd'hui, c'est plutôt une ville qui déchire les croyants.
Oui, mais parce que je pense que les religions ont été instrumentalisées, c'est-à-dire dans leur cœur même. Il y a toujours la volonté de fraterniser, d'aller vers l'autre, de dépasser l'égoïsme pour aller vers l'altruisme. C'est dans le cœur des trois grands monothéismes. Mais les aléas de l'histoire, les blessures, les peurs font qu'on n'entend pas le cœur des religions battre et qu'on préfère faire couler un sang fraternel plutôt que d'essayer de construire. Mais c'est Jérusalem. Cette ville mémorielle, vieille, est un appel à la construction, toujours.
Vous écrivez « Je pensais traverser Jérusalem, Jérusalem m'a traversé » et on comprend dans le livre que vous avez eu une expérience mystique dans cette ville. Racontez-nous un peu ça.
Oui, en fait, j'avais très très peur d'aller à Jérusalem parce que, et je crois que la peur a été plus grande que le désir pendant des années. J'avais peur qu'il ne se passe rien, que ce soit juste un voyage touristique. Alors, ça ne me paraissait pas possible vu l'ampleur de cette ville et son importance dans l'histoire humaine. Et en fait, j'y vais quand même. Et puis, effectivement, Jérusalem me fascine, bien sûr, m'irrite, me plaît. Alors, Jérusalem, c'est une ville à mille facettes et qui vous donne toutes sortes de sentiments. Mais au milieu de ce voyage, effectivement, au Saint-Sépulcre, dans un moment où j'étais extrêmement critique, voltairien, où je me moquais des gens qui m'entouraient et de leur bondieuserie, j'étais sur le mont du crâne, le Golgotha, cet endroit où les Romains exécutaient les Juifs dans le sacrifice de la crucifixion. Et là, j'ai vraiment ressenti quelque chose d'extrêmement fort. J'ai ressenti une présence. J'ai ressenti une force qui était toujours là et qui m'enveloppait et qui me contemplait avec une sorte de bienveillance. Et c'est comme si j'avais fait un saut dans le temps. Mais de toute façon, quand on est dans Jérusalem, on marche entre plusieurs millénaires.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu aussi de Gila, votre guide israélienne qui était avec vous pendant ce voyage?
C'est quelqu'un que j'ai adoré parce que, et que j'adore, parce que, comme beaucoup d'Israéliens, elle a plusieurs couches de culture. Il y a l'origine marocaine, ensuite il y a le fait qu'elle est née en Israël, donc il y a cette identité-là, plus un rapport à la France qui est très fort, et le fait qu'elle est guide aussi, souvent avec des pèlerins chrétiens, et qu'elle donc elle a une connaissance pas seulement de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament. Bref, c'est quelqu'un qui multiplie les couches identitaires et qui est riche de tout cela. Et elle me fascinait d'autant plus que je dirais que je les voyais des yeux d'un bleu incandescent. Et j'écris ça dans mon carnet de notes. Et puis 2 jours après, je me retrouve à côté d'elle dans le bus et je constate qu'en fait, ses yeux sont noirs. Et là, je conclue qu'en fait, il faut distinguer les yeux et le regard. Elle a les yeux noirs, mais elle a le regard bleu.
C'est beau. Alors, vous avez aussi visité Nazareth, Bethléem, Tibériade, Césarée, le mont Tabor et Megiddo. Qu'est-ce que vous avez préféré, à part Jérusalem?
Je crois que me retrouver au bord du lac de Tibériade m'a profondément ému. Parce que j'ai vu tout ce que la religion juive et chrétienne a de pastoral. Moi, j'ai découvert le christianisme dans les églises froides et sombres du nord de l'Europe, en grelottant. Et tout d'un coup, je me retrouve devant une nature luxuriante qui appelle à la paix, qui appelle à la simplicité, qui appelle à une vie extrêmement mesurée, basée sur des valeurs très simple. Et je me rendais compte finalement que j'avais perdu les racines moyen-orientales d'une religion à laquelle je me réfère souvent. Et ça, c'était un vrai cadeau. Ma religion, elle a bien évidemment des racines dans le ciel, mais je découvrais qu'elle avait aussi des racines dans la terre.
Est-ce que vous avez parlé de manière très mesurée, et c'est assez rare sur ce sujet, vous avez détesté le mur de séparation entre les territoires et Israël, et pourtant vous écrivez quelque chose d'assez équilibré là-dessus. Deux camps s'opposent qui, à leur manière, ont tous les deux raison. Il ne s'agit ni d'un combat entre le bien et le mal, ni d'un assaut du vrai contre le faux. Il s'agit de deux conception du bien inconciliable, de deux vérités qui s'excluent. C'est vraiment une position qu'on n'entend pas souvent, Eric Emmanuel Schmitt.
Je vois cette situation comme une tragédie. Une tragédie au sens défini dans l'Antiquité par les Grecs. C'est-à-dire Antigone qui veut enterrer son frère pour respecter les lois du cœur et de la famille a raison. Mais en face d'elle, Créon, l'homme politique, qui veut punir un criminel et défend la raison d'État, il a aussi raison. Et c'est ça de tragique. Quand deux personnes ne sont pas d'accord, qu'elles ont toutes les deux raisons et toutes les deux torts au point de vue de l'autre. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir d'un conflit tragique, car le conflit tragique, de par sa nature même, accumule l'incompréhension et la violence. Et c'est vrai que ce mur, qui est un mur sécuritaire et sans doute un mur totalement utile, il est aussi notre échec à nous tous. C'est-à-dire notre échec à pouvoir dialoguer, discuter, construire ensemble. Au lieu de construire ensemble, on construit au milieu un mur. Je pense que l'histoire humaine se résume à deux éléments architecturaux, le pont et les murs. Et en ce moment, dans le monde entier, on construit des murs parce qu'on n'arrive pas à construire des ponts. Et vous avez remarqué, par exemple, en Ukraine ou en Russie, on détruit les ponts.
Oui. Alors, vous dites « l'hébreu se déchiffre à l'envers et cet élan révèle le très fondamental. L'hébreu remonte dramatiquement le temps. » Expliquez-nous ce que vous entendez par là.
Ça
Parce que
m'a
c'est
frappé.
profond.
D'abord, moi, je suis fasciné qu'une langue ait survécu comme ça en exil pendant 2 millénaires. Ça, c'est déjà ça, c'est une chose qui m'émeut profondément, comme une ville emmenée comme un trésor sacré et qui se perpétue, puis après qui se renouvelle et qui redevient une langue moderne aujourd'hui. Mais le fait que ça se lise à l'envers, pour moi, exprime effectivement le fait que c'est une langue qui remonte le temps. Pour dire attention, nous, on retourne à l'origine. Vous voyez, on repart avant l'Exode. Je sens vraiment ça dès que je vois un mot d'hébreu. Et puis je dis dramatiquement, parce que vous savez, c'est comme au cinéma. Au cinéma, quand on suit un personnage tranquillement, on le suit en allant de la gauche vers la droite. Et quand on veut faire un travelling dramatique, c'est-à-dire qui frappe le spectateur, on va dans l'autre sens. On va de la droite vers la gauche. Et donc, je trouve que l'hébreu a aussi une façon dramatique de remonter le temps.
Alors, ma dernière question, hein, malheureusement, on n'a pas le temps, Éric Emmanuel Schmitt, mais vous écrivez, jeune, on croit qu'on crée, mûr, on comprend qu'on observe, vieux, on sait qu'on obéit, mes romans sont mes tyrans. On dirait que ce livre vous a choisi et qui devait sortir de vous comme ça, comme un destin. C'est ça que vous avez ressenti?
Complètement, complètement. L'appel qui a suscité ce livre, le fait que immédiatement je me trouve une disponibilité intérieure et ensuite, évidemment, dans mon emploi du temps, les grandes émotions de ce voyage, j'avais rendez-vous avec ce voyage comme j'avais rendez-vous avec ce livre.
Eh ben, en tout cas, il est très réussi. C'est, comme je le disais, un carnet de voyage. Et en plus, on voit que vous avez fait un sacerdoce, hein, à écrire de 8 h du matin à 8 h du soir tous les jours. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça se lit très facilement. Ça s'appelle Le défi de Jérusalem. Il y a beaucoup de pensées philosophiques profondes. Ça vient de paraître chez Albin Michel. Je vous le conseille. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous, bonne journée.